RFI 6h30 à Dakar et en temps universel 8h30 à Goma.
RFI Matin.
Et c'est le journal de Vincent Dublanche tout de suite. On est à Dakar pour ouvrir cette édition.
Ah oui, le beau-frère de Macky Sall au Sénégal, ex-ministre sous sa présidence, placé sous mandat de dépôt hier. Cinquième ex-responsable poursuivi dans l'affaire de la gestion contestée des fonds Covid. On en parle aussi avec notre invité. 58 soldats morts au Niger dimanche, 41 soldats tués au Mali vendredi. Lourd bilan face aux djihadistes au Sahel. Jean-Louis Billon se rappelle au bon souvenir de son parti, le PDCI RDA, en Côte d'Ivoire. On va parler aussi dans quelques minutes du retour confirmé de Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Il est à Goma, il peaufine en ce moment son agenda, mais il affirme d'ores et déjà vouloir mettre son expérience au service de la paix. Ce n'est pas vraiment l'avis de la presse africaine, vous l'entendrez avec Frédéric Couteau dans une bonne dizaine de minutes.
Au Sénégal, le maire de Saint-Louis a passé sa première nuit en prison.
Amadou Mansour Faye, qui est aussi le beau-frère de l'ancien président Macky Sall et qui est surtout ancien ministre, c'est à ce titre qu'il est en détention provisoire depuis hier, poursuivi par la Haute Cour de justice comme quatre autres ex-ministres de l'ère Macky Sall. Pour des détournements allégués de fonds anti-Covid. RFI Dakar, Léa-Lisa Vesterov.
Après avoir comparu près de 4 heures devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, Amadou Mansour Faye, actuellement maire de Saint-Louis, a été inculpé pour complicité de détournement de deniers publics, entre autres. Accusé de surfacturation, estimé à plus de 2,7 milliards de francs CFA suite à des achats de riz destinés aux populations vulnérables pendant la pandémie de Covid-19. Des accusations rejetées par Amadou Mansour Faye et son équipe d'avocats, selon laquelle ces chefs d'inculpation sont le résultat d'un acharnement politique. Maître Amadou Sall.
Si aujourd'hui il est retenu pour ce délit, pour cette infraction, il ne fait absolument l'objet d'aucun doute que c'est une commande politique. Parce que il n'est en rien concerné et il l'a démontré.
Selon sa défense, l'ancien ministre du Développement communautaire ne peut pas être reconnu responsable de possibles cas de surfacturation car il ne faisait pas partie de la commission qui a choisi l'entreprise à laquelle ce riz a été acheté. Hier, ses avocats ont proposé une mise en liberté provisoire avec paiement d'une caution, refusée par la commission d'instruction qui doit désormais compléter son enquête pour décider si Amadou Mansour Faye sera poursuivi ou non. Léa-Lisa Vesterov, Dakar, RFI.
Et la justice est-elle politique au Sénégal? Les juges de la Haute Cour de justice sont-ils indépendants? Pourquoi le parti de l'ex-président Macky Sall va-t-il boycotter demain la journée du dialogue national? Autant d'interrogations auxquelles notre invité, le politologue Mamadou Lamine Sarr, répond ou tente de répondre dans un petit quart d'heure. Et puis dans le journal de 7h heure de Dakar, la visite d'État de Bassirou Diomaye Faye à Bissau hier, comme si vous y étiez. En bref, dans ce journal, au Sénégal toujours, ce drame à Touba, dimanche, 11 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un immeuble de 3 étages. 7 autres ont été blessées. Le directeur national de la construction au Sénégal met en cause le non-respect des normes de construction.
Plusieurs attaques au Sahel ces derniers jours.
Dimanche, au Niger, au moins 58 soldats sont morts, dit des sources sécuritaires. Des djihadistes de l'État islamique au Sahel s'en sont pris à un poste des forces spéciales dans la zone frontalière avec le Mali au nord de Taoua. Le Mali où le maire de Kona, localité de la région de Mopti, a été enlevé, toujours ce dimanche, d'après plusieurs sources locales. L'enlèvement d'Ousmane Campo n'a pas été revendiqué, mais les sources jointes l'attribuent unanimement aux djihadistes du Jnim. Le groupe lié à Al-Qaïda qui revendique par ailleurs l'attaque du camp militaire de Djoura, également dans la région de Mopti, c'était vendredi. Cette fois, les assaillants revendiquent avoir pris le contrôle du camp. Les sources locales, civiles, sécuritaires, jointes par RFI, confirment. Une source sécuritaire évoque le chiffre de 41 morts chez les soldats David Baché.
Une attaque terrible, ils ont dévalisé le camp, confie une source sécuritaire malienne, qui déplore des manquements. Il y avait eu des alertes, mais la hiérarchie a été trop négligente. Lors de l'attaque de leur camp, les soldats de Diora n'ont reçu aucun renfort et n'ont bénéficié d'aucun soutien aérien. Un détachement de l'armée a fini par arriver sur les lieux dimanche, le surlendemain, et n'a pu que constater l'étendue des dégâts. Vendredi, les djihadistes du Jnim ont pris le contrôle du camp militaire en début d'après-midi. Ils y sont restés jusque tard le soir et sont même revenus le lendemain samedi, circulant dans le camp et dans la ville de Djoura, comme l'ont rapporté plusieurs témoins. Dans ses vidéos de revendication, le Jnim a diffusé les terribles images de soldats maliens morts au combat. Le Jnim exhibe également les nombreux véhicules dérobés à l'armée malienne. Des armes, des munitions, des documents d'identité de soldats tués font aussi partie du butin. De quoi renforcer, encore une fois, l'arsenal des djihadistes.
Et nous avons sollicité l'armée malienne. Elle n'a pas donné suite, elle n'a pas communiqué du tout sur cette attaque. Par ailleurs, hier, sachez que c'est le camp militaire de Soumpi dans la région de Tombouctou qui a été visé par des tirs de drones. Et cette fois, ce sont les rebelles indépendantistes du Front de Libération de l'Azawad qui revendiquent l'attaque. Aucun bilan n'a pu être vérifié à ce stade.
Abidjan 97.6 FM.
En Côte d'Ivoire, Jean-Louis Billon sort de son silence.
Le cadre du PDCI RDA réaffirme son ambition intacte, je cite, pour la présidentielle d'octobre. Présidentielle pour laquelle son parti a un candidat, Tidiane Thiam, mais la justice ivoirienne demande sa radiation des listes électorales. Cela le rendrait inéligible, d'où ce retour médiatique de son rival Binta Diagne.
Depuis quelques semaines, Jean-Louis Billon était resté silencieux, dénonçant une mascarade. Il n'était pas candidat à la convention qui, le mois dernier, a désigné Tidiane Thiam candidat à la présidentielle. Mais aujourd'hui, Jean-Louis Billon part d'un constat. Son parti, le PDCI, n'a pas de candidat pour la présidentielle, dit-il. Au nom de l'unité et pour éviter que le PDCI ne rate ce rendez-vous électoral, Jean-Louis Billon réaffirme ses ambitions.
Je suis PDCI. Aujourd'hui, le PDCI n'a pas de candidat. J'appelle au débat démocratique au niveau du parti. Si je suis entendu, tant mieux. Si je ne suis pas entendu, j'avancerai. Je suis soutenu par un ensemble, déjà, de mouvements et d'autres partis politiques. Je n'ai pas besoin d'aller en candidat indépendant. Il y a une myriade de mouvements et de partis qui me soutiennent. Et je ramènerai cette victoire au PDCI.
Sollicité par RFI, le porte-parole du PDCI affirme ne pas avoir d'informations au sujet d'une tentative de rapprochement avec la direction du parti. Une requête qui surprend certains cadres qui relèvent des contradictions. Jean-Louis Billon ne participe pas aux réunions du parti. Il était absent des deux derniers bureaux politiques, souligne l'un d'eux. Il n'y a pas de concertation interne sur cette question, affirme un autre membre du bureau politique qui dénonce une démarche individuelle. Nous nous battons pour que notre candidat, à savoir Tidiane Thiam, soit maintenu sur la liste électorale, poursuit cette source. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
À la capitale économique ivoirienne, où se tiennent depuis hier les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, la BAD. On attend l'élection de la patronne ou du patron. Ce sera jeudi. Le sortant lui tire le bilan. On écoute le Nigérian Akinwumi Adesina.
Il y a deux choses dont je suis fier. Tout d'abord, nous avons été capables de mobiliser des ressources financières. Le capital de la banque est passé de 93 milliards à 325 milliards de dollars. La seconde chose, c'est que la BAD a été capable de défendre les intérêts de l'Afrique partout dans le monde. Jusque-là, les données économiques étaient commandées de l'extérieur. J'ai mis fin à cela. Pour moi, il est important que la Banque africaine de développement produise ses propres ressources. Il s'agit de collecter les données, de les analyser et de fournir des recommandations de politique publique avec nos propres statistiques qui sont en phase avec les réalités de développement du continent.
Akinwumi Adesina, le Nigérian, président sortant de la Banque africaine de développement, qui sera, je vous le dis, notre invité exceptionnel. Ce sera jeudi dans Appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Juan, qui est pour 3 jours à Abidjan.
RFI, 7h38 à Kinshasa, une heure de plus à Goma. Pas de son, ni d'image, mais Joseph Kabila est bien dans la grande ville de l'Est de la RDC.
Son entourage le confirme, Andréane, en plus des communicants officiels de l'AFC M23 qui contrôle Goma. Patient Ligaudi, que sait-on de l'emploi du temps de Joseph Kabila hier et ses prochains jours?
La journée a été consacrée aux équipes techniques, ses proches collaborateurs venus avec lui. Au moins 2 réunions ont eu lieu sans que le contenu ne soit révélé. Selon son entourage, il s'agissait surtout de préparer un programme qui tournera essentiellement autour de rencontres avec des personnalités politiques, sécuritaires, la société civile et même religieuse. Tout a été planifié, les audiences, le cadre, le programme qui devait être annoncé aujourd'hui mardi. Et une ébauche est déjà prête. Et pour la durée du séjour, aucune précision, son équipe explique cependant qu'il est rentré chez lui dans un espace où il se sent en sécurité. Il est rentré chez lui, il a une résidence ici, même s'il quitte Goma, il sera de retour, a déclaré Patient Saïba, l'un de ses proches collaborateurs présent dans la capitale du Nord Kivu. Concernant sa posture, Joseph Kabila veut se positionner en pôle de stabilité et d'expertise face dit Kikaya Binkarubi, un autre proche collaborateur, au cas où. Cependant, ce n'est pas la même lecture qui est faite à Kinshasa. Un procès sera bel et bien lancé contre lui, disent des sources gouvernementales.
Patient Ligaudi.
Et on en reparle juste après ce journal dans la revue de presse de Frédéric Couteau. Notre dossier ce matin sur la solidarité face aux féminicides dans le monde arabe et notamment en Afrique du Nord.
Et pour s'en rendre compte, je vous propose de nous rendre dans un colloque qui se tenait récemment à Tunis. Il rassemblait des militants et militantes de Tunisie, bien sûr, du Maroc aussi, mais de Jordanie également, avec un constat pour tous ces pays accablant, malgré les changements législatifs ces dernières années. Reportage d'Ilia Blaise.
Ahmed Mkadem, chargé de recherche à l'association féministe Aswat Nisseh, explique qu'outre la solidarité entre les différents pays arabes sur la lutte contre les féminicides, certaines similarités apparaissent.
Les points communs, en fait, c'est la mentalité patriarcale, ce qui fait que dans chaque pays, on retrouve les mêmes arguments pour justifier le fait de tuer une femme.
Une vision aussi partagée par la Jordanienne Banan Abou Zainedine de l'association Takatoat.
Dans notre pays, la femme est toujours comprise dans le cadre de la famille et protégée par celle-ci. Cette idée ancre la vision sociétale que la femme est la cause de la violence et non pas qu'elle peut la subir à cause de son genre.
Côté marocain, la journaliste indépendante Camélia Echihab, créatrice de la page Stop Féminicide Maroc, s'occupe elle-même de recenser les féminicides en compilant des données dans les médias via la section Faits divers.
J'en suis arrivée à 50 féminicides en 2023, trentaine en 2024, et là actuellement j'en suis à 7 pour 2025. Mais tous ces chiffres ne sont pas du tout exhaustifs, ils ne représentent que la partie émergée de l'iceberg et ils sont très en deçà de la réalité.
Une réalité qui peine à mobiliser les politiques en réaction au phénomène dans les trois pays, Lilia Blaise, Tunis, RFI.
En Tunisie, l'association de défense des droits des femmes, Aswat Nisseh, a recensé 26 féminicides l'année dernière, chiffre élevé, qui témoigne du fait que la lutte contre les violences faites aux femmes n'est pas une priorité politique, nous dit ce matin la sociologue Fethia Saidi. Elle dénonce ce changement, ce manque de changement, de manque d'évolution, malgré la mise en place d'un observatoire national pour la lutte contre les violences à l'égard des femmes depuis 4 ans en Tunisie. On l'écoute.
Pour moi, aujourd'hui, la priorité, c'est pas les violences à l'égard des femmes, parce que aujourd'hui, la priorité, c'est la famille. On a remarqué que le nom même du ministère a changé. On trouve, bien sûr, la famille qui devance la femme. Et cela veut dire pour moi que la famille, c'est la priorité. Les violences viennent en second lieu. Et bien sûr, la lourdeur de l'administration. Normalement, par exemple, l'Observatoire, lorsqu'il élabore un rapport et fournit ses rapports au ministère de tutelle, qui est le ministère de la Famille, c'est pour aider les décideurs, pour mettre des programmes, des stratégies, pour formuler des politiques publiques. Mais étant donné que la priorité, ce n'est plus la femme et ce n'est plus les violences, alors tout ça tarde un peu.
Fethia Saidi, sociologue tunisienne, interrogée par Lilia Blaise, et son dossier du journal de 8h30 à retrouver sur RFI.fr.
Et on termine ce journal avec du sport. On évoquait hier matin, Vincent, les difficultés de la Fédération sénégalaise de foot. Difficultés financières, c'est le débat d'appel sur l'actualité dans 1h30, 10h10, heure de Paris. Mais en Guinée aussi, l'argent manque.
Oui, il faut faire des choix, Andréane, et au vu du parcours actuel du Sili National dans les qualifications pour la Coupe du Monde de foot, le ministère guinéen des sports du gouvernement de transition réfléchit apparemment à pourquoi pas privilégier plutôt la sélection pour le CHAN, la CAN des joueurs qui évoluent en Afrique. La décision n'est pas actée, nous dit-on, à 100%. Des discussions sont encore en cours entre le gouvernement et la fédération.
Au Sénégal, le monde de l'athlétisme est en deuil.
Ibou Faye, décédé à 55 ans d'une crise cardiaque à Paris. Il avait notamment terminé 4e au JO d'Atlanta en 1996.
Et puis en tennis, l'entrée en lice d'Once Jabeur aujourd'hui à Roland-Garros.
La Tunisienne, 30e mondiale, opposée à la Polonaise Magdalena Fresh, qui est 25e au classement WTA.
Rendez-vous dans le journal des sports pour en parler dans 1 heure. Merci Vincent Dublange.